France Culture.
À l'usine, l'attaque est directe. C'est comme s'il n'y avait pas de transition avec le monde de la nuit.
De quoi rêvent-ils, toutes les siestes, toutes les nuits, ceux qui sont aux abats, et qui, tous les jours que l'abattoir fait, voient tomber des têtes de vaches de l'étage supérieur, prennent une tête, une par une, la calent entre des crocs d'acier sur une machine idoine, découpent les joues, les babines, puis jettent les mâchoires et le reste du crâne. 8 heures par jour, en tête à tête.
Tu rentres dans un rêve ou un cauchemar. La lumière des néons, les gestes automatiques, les pensées qui vagabondent dans un demi-sommeil de réveil, tirer, tracter, porter, soulever, peser, ranger, comme lorsqu'on s'endort.
De quoi rêvent-ils, ceux qui sont au cuir? C'est ainsi qu'on appelle ceux qui arrachent les peaux des bêtes juste après qu'elles ont été tuées.
Ne même pas chercher à savoir pourquoi ces gestes et ces pensées s'entremêlent.
Il paraît que ce poste est éreintant, que les intérimaires tournent comme ailes de moulin jour de tempête. Tellement c'est dur physiquement, moralement, arracher des peaux de vache toute la journée.
Les couloirs, les escaliers qui ne semblent jamais en finir, le temps perdu.
De quoi rêvent-ils, ceux qui sont au fer? Puisque chaque quartier de bête est marqué d'un numéro de tuerie, identifiant unique, traçabilité. Le corps est un tombeau pour l'âme, dit la vieille maxime grecque classique. Et je réalise que l'âme est aussi un tombeau pour les corps. Mes cauchemars sont juste à la hauteur de ce que mon corps endure.
Ce livre, il s'appelle « À la ligne », qui a été écrit par Joseph Pontus, qui a bossé en intérim dans un abattoir en Bretagne. Et il décrit les conditions de travail de toute personne qui travaille dans un abattoir.
Le monde après le spécisme. En finir avec l'oppression des animaux. Une série documentaire de Pauline Chanu, réalisée par Clémence Grosse. Épisode 3. L'animalisation, matrice de toutes les dominations.
Je travaille dans le bâtiment. L'entreprise dans laquelle j'étais a fermé. Et donc, je me suis retrouvé à devoir chercher un travail. Et donc, j'avais 22 ans, 16 ans. Et j'ai poussé la porte d'une agence d'intérim qui m'a dit, on fait des visites d'un abattoir. Et donc, j'y suis allé. Cette visite, elle m'a marqué et elle me marque encore parce que personne n'est prêt, en fait, pour ça. Personne. Il y a des bruits, des machines, les animaux, les odeurs. Les murs sont blancs, enfin, ça fait vraiment très, j'allais dire, hôpital, très clinique. Ce qui est vraiment choquant, en fait, c'est qu'on nous a amenés directement sur la chaîne d'abattage. Et donc, en fait, on voit toutes les vaches pendues, on voit du sang partout, une moiteur, une humidité qu'il y a dans le lieu. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment pas pour moi. Et en fait, c'était un vendredi. Et dans l'après-midi, on m'a dit, si vous voulez, lundi à 5h, on vous attend. Si vous voulez venir essayer. Quoi. Et donc, tout le week-end, je me suis dit, ouais, est-ce que j'y vais pas. Enfin, parce que j'avais besoin de travailler, quoi. J'avais besoin de m'en sortir. Mais pour ça, il fallait que je fasse un métier morbide, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, vas-y. Et j'y suis allé. Et donc, je suis arrivé, on m'a donné des affaires. Donc, et puis, on m'a amené à un poste, ce poste-là, que j'occupe toujours. Et on m'a dit, tu vas observer, et puis, au bout de quelques jours, tu seras autonome et tu vas pouvoir maîtriser le poste et suivre la cadence de la chaîne. On vient te cueillir comme ça, comme une fleur, sans te préparer, quoi, en fait. Et débrouille-toi. Peu importe si t'as ta conscience personnelle. C'est comme si on t'envoyait à la guerre sans être prêt. On nous montre des gestes, mais c'est pas des gestes... Par exemple, faire rouler un pneu, quoi. C'est arracher un foie, enlever des poumons, enlever un cœur, d'une vache qui vient d'être abattue il y a quelques instants. Donc tout est encore chaud, et je me dis je vais pas y arriver, je vais pas tenir, là ça va trop vite, il y a trop de choses à faire. Si tu tiens pas, quelqu'un d'autre viendra prendre ta place, et tant pis quoi. À force de voir, on se dit voilà, on devient comme des robots quoi. Et petit à petit, je maîtrise le poste, et voilà.
Avec L214, on a un enjeu très très fort.
Brigitte Gauthier, cofondatrice de l'association L214.
On a vraiment toujours été sur dénoncer le système, pas les personnes. C'est-à-dire qu'on va dénoncer un certain nombre de pratiques qui sont courantes et qui sont faites par des humains. C'est-à-dire que quand vous pouvez avoir des images d'abattoirs, c'est des êtres humains qui mettent à mort les animaux parce que justement, c'est pas mécanisable. S'ils avaient pu le mécaniser, ils l'auraient mécanisé. Mais c'est des êtres vivants, doués de sensibilité et qui du coup vont se débattre. Donc ça passe par des êtres humains. Tout le monde mange de la viande en France quasiment. Néanmoins, tout le monde est contre la maltraitance sur les animaux et sur le fait de les tuer sans nécessité. Ça ne se traduit pas dans des actes. Mais en tout cas, ça existe. On va parler de système, on va parler d'environnement alimentaire, parce qu'on est imbibé par l'histoire de la viande, on est sous emprise de la viande, d'une certaine façon. Quand vous allez dans les supermarchés, et la majorité des courses, hein, c'est 80% des courses qu'on fait dans les supermarchés aujourd'hui, les rayons sont remplis de viande. C'est 9 plats préparés sur 10 qui contiennent viande ou poisson.
C'est une grande pièce où il va y avoir une chaîne. Et sur cette chaîne, en fait, il y a, on va dire, une trentaine de vaches qui peuvent être pendues. Et tout au bout de cette pièce, il y a un piège où les vaches rentrent et elles sont assommées de différentes façons. Donc, on n'est pas prêt, quoi, aussi pour ça. Vraiment, voir les derniers souffles d'une vache qui arrive, qui se fait égorger. C'est comme une scène de film d'horreur, parce qu'on voit vraiment une grosse giclée de sang qui monte peut-être 3 mètres de haut, quoi. Enfin, c'est vraiment très impressionnant. Voir des veaux arriver et lécher la main du bourreau, quoi, qui va la battre, c'est très dur. Oui, c'est très dur. Et écouter l'animal agoniser vraiment jusqu'au bout, quoi. Vraiment, personne n'est prêt pour ça, quoi.
Combien d'animaux dans la journée passent dans cette chaîne ?
On va dire plus de 200. C'est énorme, quoi. C'est énorme. Qui sent vraiment le plus fort, je dirais, c'est toute la partie où on va traiter le système digestif. On a l'impression que cette odeur, elle nous suit, quoi, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des vêtements, là, par exemple, je mets des t-shirts ou des choses comme ça, au bout d'un certain temps, on les jette, quoi. Et au début, je rentrais et je dormais, en fait. C'est une telle énergie qu'on n'a plus la présence d'esprit de se dire, je vais rentrer, je vais chercher du boulot. C'est un piège. Ouais. Je travaille du lundi au vendredi. Je gagne même pas 2000 euros par mois, quoi. On commence en général à 4h ou 4h30 le matin. Je suis séparé et le fait que je n'ai pas pu avoir la garde, de façon équitable de mes enfants, c'était mes horaires de boulot très tôt. Et en fait, ce travail a enlevé mes enfants, quoi. C'est un milieu, on va dire, très masculin, dire à 90%, c'est des hommes. C'est un travail qui vous broie vraiment de l'intérieur, vraiment. Ouais. Avant le physique, c'est la tête qui prend énormément. C'est un métier aussi qui fait beaucoup appel à des personnes issues de l'immigration, les femmes et enfants, et ils viennent travailler 8-10 heures par jour sur une chaîne d'abattoir.
La question animale, finalement, elle est à la croisée de tout un tas d'autres questions. Hein. avec des mécanismes de discrimination qu'on va pouvoir malheureusement retrouver sur des mécaniques sexistes, sur des mécaniques racistes, coloniales, etc. Enfin, vraiment, on va être à l'intersection, enfin, où aujourd'hui on a vraiment un système qui broie les animaux, les êtres humains, et qui détruit notre environnement. Et ça profite seulement à quelques-uns, et notamment bah, les ténors de l'industrie de la viande. Et aujourd'hui, on a des systèmes qui sont très, très concentrés avec des mastodontes de la viande et qui ont tout intérêt à essayer de sabrer le débat public. En fait, toutes les ficelles qui ont été développées par l'industrie pionnière, celle du tabac, vont être utilisées aussi dans le cadre de l'industrie de la viande. Et on le voit, enfin, on le voit dans l'image qui est racontée. Enfin, nous, on aime bien se raconter des histoires. Hein. On a le Père Noël, mais on a aussi la question de la viande. Hein. Enfin, vraiment, avec encore l'image d'Épinal, du petit élevage et son petit compagnon, le petit boucher.
Et j'imagine les gens qui vont faire leur barbecue, qui vont faire tout ça. Je me dis, est-ce qu'ils ont conscience de toute la souffrance qu'il y a derrière tout ça? Je pense pas, quoi. Où les gens occultent, ils se mettent des œillères et ils se disent, bah voilà, c'est comme ça. Ils préfèrent pas y penser. La phrase qui revient le plus souvent, je sais pas comment tu fais, ou t'es courageux, parce que ça fait quand même 15 ans que je fais ça, mais la prochaine fois qu'il ira au restaurant, il va se commander une entrecôte et il pensera plus à tout ça, quoi.
Est-ce que vous voyez une porte de sortie pour vous de l'abattoir?
Bah, j'aimerais beaucoup, et le temps file, et on se dit, putain, ça fait déjà 15 ans que je fais ça, que faire en fait pour arrêter ça? C'est compliqué. J'aimerais bien, par exemple, être dans l'aide à la personne, travailler dans une maison de retraite, apporter du soin finalement. J'ai entamé des démarches, alors après c'est vrai que c'est pas simple, parce que... Voilà, on va dire, bah oui, il est courageux, il a tenu 15 ans là-dedans, mais il n'a pas les compétences pour le poste demandé. C'est difficile d'exploiter mes compétences que j'ai acquises pendant 15 ans, parce que c'est pas polyvalent, quoi. On ne peut pas appliquer ça sur d'autres métiers. Donc aussi, de ce côté-là, il y a une sorte de fatalisme, de se dire, oui, tente le coup, mais tu sais très bien que ça va pas déboucher sur grand-chose. J'aimerais beaucoup que l'abattoir, que ce soit un lointain souvenir, quoi, pour moi.
Je rappellerai que notre métier a une spécificité bien particulière. Et si nous le comparons à ce qui se passe dans l'industrie automobile, une entreprise qui fabrique des voitures achète des pièces détachées, peu importe si les compositions sont plus ou moins complètes, et en fait un assemblage et vend un véhicule. Moi, j'achète des animaux, et ces animaux-là, je les mets en petits morceaux. Et je ne sais pas quel en sera le résultat économique tant que je n'ai pas vendu le dernier morceau. Devant pratiquer du museau jusqu'à la queue, quasiment, du groin pour le porc, des ventes par petits bouts. Moi, dans une industrie qui est celle de la viande, on aurait malheureusement plutôt la place, j'allais dire, du ferrailleur que du fabricant de voitures. Donc, nous sommes une entreprise, une industrie de démolition. C'est pareil pour le bœuf, le veau, le porc et l'agneau. On rentre des animaux et nous sortons de la viande.
Qui est cette personne?
Alors, c'est le PDG du groupe Bigard Socopa Charal et c'est un des ténors de l'industrie de la viande. Donc c'est Jean-Paul Bigard qui est le président directeur général, qui parle très très peu, qui s'exprime très très peu publiquement. Et donc il est sommé de répondre à cette commission d'enquête. Donc là, on est vraiment justement, ça fait la démonstration. C'est-à-dire qu'on a Jean-Paul Bigard, qui est multimillionnaire, qui achète des animaux, enfin son entreprise achète des animaux à des éleveurs, qui eux ne s'en sortent pas. Et l'État est incapable d'imposer à une entreprise comme Bigard Socopa Charal le fait de publier ses comptes, alors que c'est une obligation légale. Donc Bigard Socopa Charal, c'est la moitié des steaks hachés vendus en France, ça provient de ces abattoirs. Donc c'est énorme comme entreprise. Les quelques rares chiffres qu'on a, c'est quand même 5 milliards de chiffres d'affaires. Et le rôle de son entreprise, c'est de mettre à mort et de découper des animaux, tout simplement. Enfin, d'ailleurs, Henry Ford s'est inspiré des abattoirs de Chicago pour monter la chaîne automobile, donc la séparation des tâches. Et ça, c'est arrivé en France, dans les abattoirs de Vaugirard, de la Villette. C'était encore une personne et il fallait plusieurs heures pour mettre à mort et découper un animal. Et pareil, paf, ça a basculé après-guerre sur l'industrialisation des chaînes d'abattage.
C'est un capitalisme dans une dimension particulière qui va s'expérimenter dans cette grande boucherie des Yards.
Kaoutar Archi, sociologue et autrice.
C'est le capitalisme dans toute sa dimension productiviste. À cette époque-là, Henry Ford va découvrir la manière dont, dans les abattoirs des Yards, du côté de Chicago, de Cincinnati, comment les animaux se sont tués. Les animaux sont tués pour favoriser une tuerie qui, économiquement parlant, soit la plus féconde. Et Ford, il est absolument frappé par ces formes d'automatisation, ces formes de standardisation, par ces bras mécaniques qui vont, qui viennent, qui cherchent les corps des animaux, qui les amènent directement à d'autres ouvriers, etc. C'est pour ça qu'on peut effectivement lier d'une certaine manière la naissance du Fordisme aux abattoirs des Yards, puisque par la suite, de la même manière que l'on démembre des animaux, Henry Ford va prendre le processus à rebours, et c'est de cette manière-là que lui va monter les pièces automobiles. Donc on voit ici que dans la dimension productiviste du capitaliste, dans cette espèce de course contre le temps et de course pour l'argent, à la fois les animaux, mais aussi également les travailleurs et les travailleuses du spécisme sont placés dans des situations proches, parce qu'ils sont captés par une même logique, qui est la logique de captation des corps, des énergies, de la force de travail, de ce capitalisme-là.
Comment me suis-je souvenu des abattoirs ? Pourquoi sont-ils revenus ? Est-ce parce que je voulais toutes les nuits les empêcher de mourir ? Avec la terreur que c'était peut-être moi, cette bête qui allait à l'écarissage ? Qui sait à quoi pensent les enfants le soir ?
Le destin de l'homme est pareil à celui de la bête. La mort les guette tous les deux.
Je marche sur les dalles de pierre pourvues de rigoles. Elles sont humides et couvertes de sang.
Ton sang est venu du soleil. Le soleil s'est caché dans ton corps. Et à présent, il en sort.
Des hommes trempent les bêtes égorgées dans l'eau bouillante. Ils les échaudent et les retirent toutes blanches. Les tueurs les écorchent ensuite dans le bruit assourdissant des treuils pneumatiques, de sorte qu'elles deviennent encore plus blanches. Doux et blanc, être très béat, ange tête en bas, suspendu au crochet par masse de chair diaphane. Ne pleure pas, mon enfant. Il faut bien apprendre ce qu'abattre un être veut dire. Il faut bien regarder le sang des bêtes couler. On ne peut pas toujours l'oublier, ce sang qui fuit chaque jour par flots démesurés. Muriel Pic, en regardant le sang des bêtes, 2017.
On rentre dans les jardins ouvriers des Vertus. Donc à Aubervilliers, et ces jardins ont presque 100 ans. C'est des petites parcelles qui sont utilisées par des familles ouvrières du quartier, du coup. Et avec mon collectif, les BSP, les Brigades de Solidarité Populaire, on cultive une parcelle. Il y a des cerises en ce moment, il y a des roses. On va continuer tout droit. La lutte antispéciste, c'est une lutte pour la libération animale, mais je la conçois aussi comme une lutte pour retisser des rapports qu'on avait avec le monde non humain, ou autre qu'humain, ou plus qu'humain, on va dire. Donc le projet politique antispéciste est aussi un projet de réparer ces liens qui ont été cassés avec la nature, les autres animaux, la terre. Et la meilleure façon, je trouve, de guérir sa relation avec la terre, la nature, c'est de mettre les mains dans la terre, de planter, avoir un potager. Et ça te permet d'expérimenter, de goûter sur un tout petit bout de terre cette société où il n'y aura plus de domination envers le reste. Puis de ce moment, voilà, en parlant de domination, les travaux qui viennent écraser mon petit bout de paradis et qui vient bétonner ces terres. Donc c'est vraiment ça, c'est goûter à un monde où les relations entre humains, humaines et non humains vont être autres que celles de domination. C'est ça l'importance de cet espace. Il y a beaucoup de figuiers ici. Là, c'est des fèves. C'est la fin de la saison où on ramasse les dernières fèves. Ça, c'est du chou portugais. Je m'appelle Sandra Guimarães. Je suis cuisinière et écrivaine. J'écris surtout sur l'alimentation, les transitions alimentaires. J'ai créé des recettes aussi. Je viens du territoire qu'on connaît aujourd'hui comme Brésil, du nord-est de ce territoire, donc le nord-est, comme on dit en portugais. La colonisation européenne a commencé par cette région. Très tôt, on a commencé à faire de l'élevage. Donc les vaches, les cochons, les poules, les chèvres, les moutons, tous ces animaux domestiqués n'existaient pas sur les territoires. Donc les colonisateurs européens ont amené aussi ces animaux. Il y a 5 siècles, c'était tout de suite. Et c'est à travers l'élevage, surtout l'élevage de vaches, qu'on a colonisé ma partie du Brésil. Et donc depuis, le système économique reste fondé sur l'élevage, la concentration de terres, parce qu'il faut envahir des terres, déforester et ensuite clôturer les terres. Donc, dans ma région, il y a une immense concentration foncière. Il y a les éleveurs qui sont très puissants. Et mes grands-parents et mes arrières étaient des travailleurs sur ces fermes. Ils étaient presque de serre, en fait. Donc, c'est vraiment... Ça, c'était les années 60-70 au Brésil. Et il y avait encore un système où des paysans sans terre travaillaient, gardaient le bétail des grands propriétaires terriens, des grands éleveurs, avec toute la famille qui habitait dans la ferme. Et à la fin de l'année... Quand les vaches mettaient bas, ces paysans-là avaient le droit à une génisse ou deux selon l'année. Donc c'était tout l'argent qu'ils avaient pour toute une année de travail. Donc mes grands-parents, mes arrières et mes parents sont nés dans ce système. Moi, j'ai dit toujours que les éleveurs au Brésil sont les héritiers directs de la colonisation. On retrouve une situation où les seules personnes qui élèvent au Brésil vraiment pour vendre, c'est ces personnes-là, une petite poignée qui contrôle tout. Au Brésil, la division est très nette. Tout ce qui est d'origine animale vient de l'agrobusiness. Tout ce qui est d'origine végétale vient de ce qu'on appelle l'agriculture familiale. Donc, c'est des petits paysans et de petites paysannes qui plantent les haricots, le maïs, le manioc, les feuilles, les fruits. Donc, tout pâturage au Brésil, quasiment, a été une forêt à un moment. Ça a été déforesté. Et ensuite, on a planté de l'herbe. 90% de la déforestation en Amazonie, c'est pour le pâturage, donc c'est lié à l'élevage. Et 97% de la déforestation au Brésil est causée par l'élevage plus monoculture de grains, notamment du soja. J'ai commencé à développer ce terme et à travailler ce concept de colonisation par l'assiette parce que je voulais expliquer aux gens comment les tables était aussi un territoire de colonisation, les estomacs étaient aussi un territoire à coloniser. Ça, c'est au Brésil, donc, où les colonisateurs ont importé le concept de domestication pour manger, parce que les peuples indigènes mangent évidemment des produits d'origine animale, mais c'est de la pêche, de la chasse, il n'y avait pas de la domestication pour la nourriture. Aujourd'hui, le Brésil est le plus grand exportateur de soja au monde. L'Europe est la deuxième plus grande acheteuse de soja au Brésil. C'est surtout du soja qu'on donne aux cochons, aux poulets, surtout aux poulets, mais aussi aux vaches laitières. Derrière ce soja-là, il y a de la déforestation, il y a vraiment l'effondrement climatique, il y a le génocide des peuples indigènes aussi.
La consommation de viande actuelle, elle est absolument pas innocente. Il y a certaines productions de viande qui vont viser en particulier en fait les populations afro-américaines pauvres.
Myriam Bahafou, philosophe et autrice.
La junk food vient cibler en particulier en fait les populations à la fois jeunes, à la fois pauvres et à la fois racisées. Et en fait, ça, c'est une catastrophe au point de vue de la santé. L'état actuel capitaliste pour s'approprier la force de travail en fait, de ces personnes racisées, qui constituent la main-d'œuvre en fait, actuellement à bas coût du capitalisme, en fait, pour s'assurer de leur travail, il va falloir nourrir d'une manière qui soit à la fois pas chère, qui soit à la fois addictive et qui, à la fois, ne leur permette pas d'avoir une réelle santé, en fait. Et donc, les sous-produits de l'industrie animale, que sont la viande qu'on va vendre chez KFC, chez McDonald's, etc., sont particulièrement susceptibles d'être consommés par ce type de population et même de constituer une sorte d'identité. Et ces choses-là arrivent précisément parce que, en fait, aujourd'hui, se préoccuper de sa santé, c'est considéré comme quelque chose de bourgeois. Pareil comme être vegan, pareil comme être végétarien, pareil. Et en fait, il y a une réelle subversion à se réapproprier, en fait, le régime vegan. Par ailleurs, dans le monde, les deux pays qui comptent le plus de vegans aujourd'hui sont le Mexique et l'Inde. Autre donnée qui n'est pas très connue, aux États-Unis, la population qui est la plus massivement vegan sont les personnes noires. Donc, en fait, tous ces faits-là, qui sont lisibles nulle part, le régime vegan, en fait, ce n'est pas un régime. C'est vraiment une reconquête, d'une certaine manière, d'une agentivité, de la possibilité de se saisir de sa propre histoire en n'étant jamais déconnecté du sort des animaux, en fait.
Et quand on déforeste, quand on déboise pour ouvrir des pâturages, et quand je dis déboiser, c'est mettre le feu pour nettoyer ce terrain-là. En Amazonie, il y a la saison sèche et la saison de pluie. Maintenant, il y a la saison de feu aussi. Et j'étais en Amazonie l'année dernière, pendant la saison du feu. Je savais que c'était horrible, mais je ne pouvais pas imaginer l'ampleur du dégât, du saccage, l'ampleur de la destruction. Alors qu'on était dans le cœur de l'Amazonie, pendant la semaine où j'étais dans la ville de Rio Branco, on respirait le pire air du monde. Tout le monde est malade, tout le monde a des maladies des poumons là-bas. Et donc, on tue tous les animaux. On détruit leurs maisons, mais on les tue aussi. Et quand on était là-bas, on a vu plein d'animaux brûlés. Que ce soit le jaguar ou des paresseux, des singes sont tués pour faire de la place à l'élevage.
Et en fait, aujourd'hui, dans des régimes en cide qui sont les nôtres, donc écocide, génocide, moi je parle de zoocide, quand on parle de sixième extinction de masse, en fait c'est ça, hein. Féminicide, en fait tous ces cides-là, qui veulent dire en fait tuer, hein, signifient qu'on vit sous un régime nécropolitique. Par nécropolitique, le pouvoir se définit aujourd'hui par sa capacité à tuer, à réduire à néant, à exterminer. La mainmise sur les semences, la façon dont les multinationales régissent aujourd'hui le vivant en général, en fait, ne se fait pas par sa capacité à faire proliférer la vie, mais bien en fait à répandre la mort de partout et à uniformiser la vie de telle sorte à ce qu'elle soit réduite à un état de marchandise qui soit toujours le même en fait. Et donc dans ce régime donc nécropolitique là, la condition animale en fait, elle est particulièrement révélatrice de ce rapport mortifère au vivant.
J'ai vécu quelques années en Palestine et quand je suis arrivée là-bas, j'étais vraiment impressionnée de voir les mêmes mécanismes de ce que j'avais vu au Brésil. C'est vraiment cruel parce que très souvent, des Palestiniens ont perdu leur terre et ils n'ont plus d'autre choix que de travailler pour les colonisateurs sur leur terre. Et ça m'a fait penser tout de suite à l'Amazonie aussi, comment très souvent, des terres indigènes sont envahies par le bétail, par les éleveurs. Ensuite, il y a des abattoirs qui sont construits et les indigènes eux-mêmes, dépossédés de leur terre et de leurs moyens de subsistance, sont obligés de travailler dans les abattoirs pour tuer les vaches qui occupent aujourd'hui leur terre ancestrale. Et ce qui s'est passé avec la Palestine ces dernières années, c'est que les colons essayent d'avancer leur plan de colonisation totale en Cisjordanie. Et très souvent, ces colons-là vont venir avec des animaux pour installer des fermes pastorales. Donc c'est pour ça que récemment, j'ai vu que la presse avait commencé à utiliser un terme, le colonialisme pastoral. L'exploitation animale sert une fois de plus à l'expansion territoriale coloniale, au nettoyage ethnique. Et ça participe à l'écocide de la Palestine. Donc génocide, colonialisme, nettoyage ethnique, écocide, tout va ensemble. C'est vraiment un projet de mort.
Au fond de ma révolte contre l'effort, je trouve, du plus loin qu'ils me souviennent, l'horreur des tortures infligées aux bêtes. J'aurais voulu que l'animal se vengeât, que le chien mordît celui qui l'assommait de coups, que le cheval saignant sous le fouet renversât son bourreau. Mais toujours la bête muette subit son sort avec la résignation des races domptées. La bête subit, lamentable, le supplice infligé par l'homme. Et plus l'homme est féroce envers la bête, plus il est rampant devant les hommes qui le dominent. Cela ne finira-t-il jamais? Tout cela se fait sans y songer. Le labeur écrase les parents. Le sort les tient comme l'enfant tient la bête. Les êtres, d'un bout à l'autre du globe, gémissent dans l'engrenage. Partout, le fort étrangle le faible. Louise Michel, Mémoire, 1886.
Mais de parler des animaux spécifiquement, et donc de prendre la nécropolitique par le bout animal, en fait, nous permet de reconnaître à quel point la banalisation de la mort animale est en fait une déconnexion même du sentiment de vie qui est censé nous animer au quotidien. Si vous voulez, c'est ce que les véganes disent quand ils rappellent que, en fait, on mange des cadavres au lieu d'utiliser le mot « viande ». Ce que les régimes nécropolitiques nous apprennent en fait à complètement ignorer et à banaliser.
Dans le langage commun, on dit « ceci est un animal, ceci est un humain ». Donc on fait une distinction bien claire entre les deux individus, les deux corps, les deux apparences. Et puis on associe à chaque corps, chaque apparence, chaque individu des capacités qui font que l'individu tout d'un coup devient digne, respectable, noble, ou au contraire, quand il s'agit d'animaux, entre guillemets, on considère qu'ils sont inférieurs, ignobles, indignes, et donc qu'on les traitera, car ils doivent être traités comme des animaux. Et ce « comme des animaux », il n'est pas si évident que ça. Ça résulte d'une construction, et c'est la construction de, on pourrait appeler, l'animalité. Et l'animalisation, c'est un processus qui vous rend tuable, en fait, qui rend tuable les animaux, et qui fait que les animaux entrent à l'abattoir. Mais ce qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est que la question de l'animalité a à voir avec aussi une partie des individus qui appartiennent à l'espèce Homo sapiens.
They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame.
You know, I'm very puzzled by the constant concern which the world and also Britain, I must say, Mark, is showing for the Palestinian people and is actually showing for these horrible, inhuman animals.
But we're taking people out of the country. You wouldn't believe how bad these people are. These aren't people. These are animals.
Et c'est ainsi qu'on montre que le grand partage humain-animal, en fait, n'est pas du tout un donné, c'est un processus, une construction, c'est surtout quelque chose à gagner.
Myriam Bafou.
C'est-à-dire qu'il y a des minorités qui partent, si vous voulez, dans la vie avec une assignation plus animale, de par leur genre, de par leur race, de par leur situation physique, de par leurs moyens économiques. Et donc l'animalisation, c'est un processus continuel par lequel certaines minorités ont justement été réduites à des traits négatifs. Donc là, si on parle des femmes, on va parler de leur rôle de simple reproductrice. Si on parle des ex-colonisés, on va parler de leur bagage génétique ou de leur prouesse physique, par exemple, ou même de leur instinct. Et en fait, toutes ces assignations-là, toutes ces réductions-là à une animalité qui, en fait, encore une fois, n'est toujours qu'un prétexte pour la domination, parce que d'animalité, en fait, il n'y a rien d'autre que ce qu'on en dit ou ce qu'on en crée, ben on va créer cette catégorie des sous-humains.
Le 1 ou le 11
Le 1.
Animal qui vit parmi nous.
Étranger ? Non, merci, faut pas, non.
Au lendemain du vote, nous sommes retournés à Montargis, autre ville où le RN est arrivé en tête.
Il vous insulte ?
Oui. Bonobo, rentrez chez vous. C'est comme si les élections, ça a libéré, quoi. Ça a libéré la parole.
On nous traite de sales arabes, de bougnoules, de...
De sales turcs.
De gros mots. De râteaux.
Sauve là encore, toi ? Tu viens ici, là. On t'a invité ? Non ? Tu dégages, tu pars. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord ? Alors tu dégages.
Mettez ça dans la rue.
On est chez nous.
Pourquoi vous le mettez ?
On est chez nous, fais ce qu'on veut. Tu m'intéresses absolument pas. Alors, va à la niche. D'accord ?
Depuis bien longtemps, on voit progressivement le terme « espèce » devenir une sorte de synonyme du terme « race ». Comme si, finalement, il y avait une sorte de continuité entre les divisions politiques. Et cela peut, d'une certaine manière, se comprendre, étant donné qu'un ensemble de populations, les populations noires, mais on pourrait parler d'autres populations, sont extraites de la catégorie morale, de la communauté morale. Elles sont incarcérées au sein de la communauté immorale, dont il est alors possible de faire absolument tout ce qu'on veut.
Le cheptel canin global est trop important en France, indiscutablement. Par contre, le cheptel de race est insuffisant. Le chien de race, ça ne se fait pas comme ça, ça s'achète, ça se désire. Je dirais qu'on y fait plus attention. Alors que pour les autres, les bâtards, les corneaux, on y va. Et je crois que c'est regrettable.
Voilà. Eh bien, je pense que non. Ça ne veut pas jeter l'opprobre, je sais, sur nos bâtards et nos corneaux, mais c'est sûr qu'il y a un problème en France. Alors, donc ici, nous sommes à ce championnat.
Ce sont nos équipes sélectionnées, c'est-à-dire qu'on prend un animal, on lui mesure la tête, les yeux, la dentition, la taille, le port de queue qui est très important dans nos nordiques, puisque chaque race porte la queue différemment. Et alors, c'est pour but, lorsque vous voulez accoupler un chien, de demander les références au propriétaire et d'éviter de mettre, si vous voulez, un chien avec deux défauts, on évitera de mettre ces deux défauts.
Le but à atteindre, c'est la promotion du chien de race pure.
Tout chien atteint de maladie, mutilé, estropié ou atteint de tares graves ont été refusés, même si leur propriétaire avait auparavant versé les 120 francs d'inscription obligatoire. Une grande fête pour tous ceux qui aiment les bêtes, mais cette exposition est aussi une bonne occasion pour valoriser l'élevage et améliorer les races.
Puisque, en fait, dans l'histoire, la notion de race et d'espèce sont extrêmement liées. Et d'ailleurs, l'eugénisme, donc, qui est le moment dans l'histoire où on commence à vouloir améliorer certaines espèces et donc à considérer certains individus comme dégénérés ou comme anormaux, donc à partir du moment où en fait ce régime de pouvoir s'installe, en fait on est déjà dans une dynamique à la fois spéciste et raciste. Donc de considérer que le spécisme est analogue ou parallèle en fait ou au sexisme ou au racisme, c'est insuffisant. Ça veut dire que en fait, en tant que femme, en tant qu'individu racisé, nous ne sommes pas simplement comme les animaux ou le spécisme n'est pas comme le racisme. En fait, nous sommes victimes du même pouvoir. Il est simplement multifacette ou multifactoriel.
Les entreprises de connaissances ont été des expériences qui ont croisé des rapports de domination et un certain nombre de savants, on peut notamment citer le nom de Georges Cuvier, vont s'intéresser à cette chose selon laquelle les femmes noires appartiennent au règne animal. Ces femmes-là incarneraient une sorte de lien, de chaînon entre les populations blanches pleinement humanisées, et les espèces animales, les espèces simiesques notamment, qui, elles, au contraire, sont renvoyées à un au-delà de l'abus, de la destruction et jusqu'à la mise à mort. C'est vraiment la grande époque des expositions coloniales. Alors, de manière très, très tardive, on finira par dire et par désigner ces entreprises-là comme des entreprises de zoos humains. Et dans tous les cas, effectivement, il y a un travail d'exposition, il y a un travail de monstration de la différence pour que puisse justement se clarifier autant que possible cette distinction entre les populations blanches et les populations non blanches.
Quelque chose qui revient souvent aussi, c'est la manière dont beaucoup de personnes handicapées ou en situation de handicap ont été animalisées historiquement.
Tom Brie Chevalier, doctorant en économie.
Ce qui illustre le mieux cette animalisation des personnes handicapées, c'est les freak shows qu'on a pu observer, notamment aux États-Unis au XXe siècle, qui étaient des formes de cirque ou de zoo dans lesquels il y avait une forme de monstration de l'altérité à travers à la fois des animaux exotiques, mais également des humains hors normes, souvent liés à certains handicaps. Des personnes très grandes ou au contraire très petites, des personnes siamoises, des personnes qui n'auraient pas certains membres, ce genre de choses. Et dans la manière dont ces altérités étaient exposées, on retrouvait les mêmes codes, les mêmes manières de le faire que dans des zoos, à savoir des espaces où ces personnes étaient parfois restreintes dans un espace comme une cage, à la portée et à la vue de tout le monde. Et c'est vraiment un exemple assez frappant de l'animalisation de ces personnes. Je me suis intéressé aux enjeux entre capacitisme et spécisme pour deux raisons. La première, c'est que je suis en situation de handicap depuis ma naissance, avec forcément une sensibilité au sujet qui m'a été imposé par ma situation. Et l'autre, c'est un intérêt pour la cause animale, qui date d'il y a environ 10 ans, à l'époque où je suis devenu végétarien. Lorsque j'ai été un peu plus jeune, j'avais tendance à beaucoup débattre en ligne avec des gens autour des questions de spécisme. Et j'étais assez vite interloqué par le fait que beaucoup des arguments pour justifier l'exploitation des animaux étaient des arguments qui auraient tout aussi bien pu s'appliquer à moi, du fait de mon handicap, ou à d'autres personnes en situation de handicap. Typiquement des arguments sur la dépendance, des arguments sur les capacités intellectuelles. Ces arguments qui m'ont très vite paru très dangereux parce que pouvant s'appliquer aussi bien aux animaux qu'aux humains. Parce que si on prenait vraiment ces arguments pour ce qu'ils sont, on justifierait de facto la non-considération d'un certain nombre d'humains. Le capacitisme, un moyen simple de le comprendre, c'est par analogie avec le racisme, le sexisme. On comprend que cette fois, c'est pas lié à la race ou au sexe, mais aux capacités. Donc on comprend que c'est une forme de discrimination, de domination, à l'égard des personnes qui ont moins de capacités, ou en tout cas pas les bonnes capacités. On va penser que si aujourd'hui on peut se permettre de dominer les animaux comme on le fait, c'est parce que dans la nature, il y a la loi du plus fort, il y a la sélection naturelle, Darwin, et du coup, c'est normal qu'on exploite les animaux. Parfois, les militants antispécistes parlent de suprémacisme humain pour désigner la manière dont on traite les animaux. Donc, briser ce suprémacisme humain, elle est aussi nécessaire pour mieux éviter cette humanité à deux niveaux dont souffrent beaucoup d'humains.
Les femmes comme ça furent punies, et punies de ça. Punies comme l'ont puni les animaux. Punies d'avoir voulu, les animaux, les emporter avec elles, par la lutte, vers la justice. C'était là une manière de ne pas laisser les animaux avec les hommes, car les femmes ne souhaitaient pas rester avec eux. Il fallait alors que tous partent, quittent ce monde des hommes, et que les femmes, les animaux, s'établissent dans leur propre monde, où les hommes ne seraient pas. Mais les hommes, par la force, étendirent leur monde jusqu'aux confins, arguant qu'il ne pouvait y avoir d'autre monde que le leur. Tout le temps, les hommes ont veillé à garder les femmes et les animaux dans des chambres fermées, dans des fermes, afin que la nuit personne ne s'échappe. Après avoir creusé, forgé, obstrué, bâti, bouché, scellé, les hommes finirent, un matin, par dire aux femmes et aux animaux « Voici tout votre monde, là, rassemblé, votre monde défini, fini. » Et les femmes, les animaux, portèrent le regard sur ce monde et virent combien de murs, de portes, de barrières, d'enclos, de grillages. Les hommes, selon ces dispositifs, montèrent la garde. De là, ils se prétendirent gardiens des femmes, des animaux. Les hommes ne diraient jamais gardiens, mais pères, frères, maris, éleveurs, dompteurs, bouchers. J'en viens ainsi à croire que jamais les femmes ne formèrent, comme l'on dit ordinairement, la moitié des humains, mais plus sûrement la moitié des animaux. Kautar Archi, Ainsi l'animal et nous, 2024.
On sait qu'aujourd'hui, jusqu'à 80% du monde associatif antispéciste en Occident est composé de femmes.
Myriam Bafou.
Donc, déjà en prenant la situation actuelle, on voit que démographiquement, sociologiquement, il y a une connivence entre la présence de femmes et une politisation antispéciste. En fait, on peut faire remonter les premiers moments de la cause animale en Occident à l'Angleterre au 19e siècle, principalement à l'existence de sociétés savantes, donc je pense au Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, et qui, elles, se révoltaient contre le traitement inhumain, et donc le terme est important ici, infligé aux animaux. Et elles s'élevaient en particulier contre la vivisection. En France, on peut penser en particulier à Marie Huot, qui a été fondatrice et secrétaire générale de la Ligue populaire contre la vivisection en 1883. Et en fait, elle va dédier toute sa vie à la cause animale, et en particulier à la lutte contre la tauromachie. On peut penser aux suffragettes, on peut passer en fait plein de mouvements féministes qui se sont ouvertement mobilisés pour défendre ce qu'on appelait la cause animale, et qui ont été en effet moquées, accusées d'hystérie, de dérèglements hormonaux. Et on peut penser d'ailleurs à la persistance en fait, d'une telle marginalisation, d'une telle pathologisation chez les femmes aujourd'hui, chez qui souvent le végétarisme ou le véganisme est très vite lié à une histoire de la psychiatrie où les femmes sont censées se renvoyer à des déviances selon comment elles se nourrissent. Donc dans cette riche histoire en fait, de connivence entre femmes et cause animale, elles disent vraiment on ne peut pas comprendre, on ne peut pas édifier une théorie féministe satisfaisante si on ne comprend pas la façon dont le patriarcat a animalisé les femmes, a féminisé les animaux.
Vous, qui sentez dans l'air le malheur qui s'avance et voyez de la mort l'invisible présence, chère bête, buvez et mangez dans mon cœur. Vous,
pour qui j'ai vêtu la toge, pris la lance, réveillé des aïeux la fougue et la vaillance, chère bête, buvez et mangez dans mon cœur.
Vous, pour qui j'ai rampé,
renié mes décences,
égorgé mes orgueils, foyé mes répugnances,
chère bête, buvez et mangez dans mon cœur.
Vous, pour qui j'ai souffert de la grande souffrance,
et devant qui je suis toujours en repentance, chère bête,
buvez et mangez tout mon cœur.
Buvez et mangez tout mon cœur.
Marie Huot, le missel de Notre-Dame des Solitudes, 1908.
C'est pas seulement une solidarité, enfin la solidarité elle vient après, mais déjà ce qu'il faut expliquer c'est qu'il y a une proximité subie entre les femmes et les animaux.
Axel Pleyous-Bror, journaliste scientifique et autrice.
Dans le sens où femmes et animaux ont été associés, non seulement il y a des représentations de femmes animalisées, sexualisées, on voit des femmes représentées mi-femme, mi-animal, sauvage, avec tout un univers de la consommation du corps des femmes, etc. Et de l'autre côté, on a des animaux qui sont représentés de façon féminisée, c'est-à-dire sexualisée, dans ce cadre-là.
Rachel, t'es où ?
Classée meilleure mamelle de la première section, Géorgie, fille du rocher sur Nikos, est entrée la première sur le ring.
Nous recommandons d'utiliser une lingette non spermicide désinfectante ou de l'eau avec un savon doux pour nettoyer la vulve.
La poitrine profonde, le dos solide, les mamelles bien attachées, un format important, une belle robe rouge et blanche, voici la Montbéliarde idéale.
Certaines truies peuvent avoir besoin d'être stimulées. Par exemple, en exerçant une pression sur le dos, en saisissant le flanc ou en frottant la ligne de dos.
Je suis monté au salon pour préparer ma vache pieuvre. La veille du concours, c'est que donc, la mamelle, on l'a tendue pour que ce soit précis et que la mamelle, elle tape à l'œil du juge.
36,5 degrés il y a 4 minutes, autant dire que les variations de température à l'intérieur du vagin de la vache charolaise n'ont plus aucun secret pour Christophe.
Sur la mamelle, je vais appliquer un gel comme ça, donc c'est du gel pour les bébés. Et ça va la faire briller et puis mettre toutes les chances de son côté.
Donc voilà, donc là c'est prêt à insérer dans la vache. Et on va...
Rachel, t'es où ?
Installer la vache. Donc là, on vient en buter.
Elle a vraiment une mamelle exceptionnelle.
On recule de 5 cm.
Elle a un pli juste tire. Incroyable.
Et le thermomètre, c'est l'araignée tout en place.
Il est phénoménal. Puis c'est vraiment le pic qu'on recherche, puis que je recherche.
C'est vrai que c'est difficile de trouver la vache parfaite, et quand on l'a, et bien on la garde, on se la bichonne, on lui signe un contrat, comme une grande vedette, et donc elle existe, elle est dans les arbres.
T'as exaucé mon rêve. Non, t'es ma belle. Vous êtes toutes mes belles, de toute façon.
Ça, il faut bien dire, elles ont aussi très très beaux seins.
À l'origine, je voulais m'intéresser à l'intersection des dominations entre violences faites aux animaux et les violences faites aux femmes. Carole Adams, chercheuse indépendante états-unienne. J'ai observé alors que dans la publicité, les femmes sont animalisées. On les montre toujours à l'horizontale, à quatre pattes, alors que les hommes, eux, sont toujours à la verticale, ils sont toujours debout. Nous mettre, nous les femmes, à quatre pattes, c'est nous mettre en position de soumission, et ça reflète la domination dont nous sommes victimes. Et en même temps, je me suis rendu compte que dans la publicité, les animaux, eux, sont féminisés, sexualisés, et donc les attributs d'une féminité hypersexualisée sont imprimés sur les corps des animaux. Dans les pubs, sur les affiches, sur les menus des restaurants, ils portent des talons hauts, des petites culottes, des bikinis. Ils portent du rouge à lèvres, du mascara, ils adoptent des postures de séduction. Et tous ces apparats servent dans les publicités à montrer que les femmes n'attendent qu'une chose, c'est d'être séduites, d'être consommées. Et c'est la même chose pour les animaux. Ils semblent dire « nous voulons être consommés ». C'est une manière amusante pour l'oppresseur d'annoncer qui est consommable.
Je pense que c'est un des éléments de l'explication de pourquoi il y a tant de réactions fortes et de levées de boucliers sur l'idée qu'il faudrait arrêter de manger les animaux, c'est parce que les gens tiennent absolument à pouvoir continuer à le faire, pas seulement parce que c'est délicieux, pas seulement parce qu'ils pensent que c'est indispensable à leur santé, mais c'est parce que ça dit quelque chose de leur position sociale. Il y a un indice de ça, c'est que les hommes notamment, qui renoncent à manger de la viande, font l'objet d'une accusation de sensiblerie, d'être des tapettes, des hommes fragiles. Il y a même une insulte, soy boy, homme soja, qui a émergé comme ça des milieux masculinistes, pour désigner des hommes féministes, des hommes qui mangent du tofu, etc. Donc c'est, voilà, la consommation de viande, elle est surchargée idéologiquement, et c'est un des obstacles au fait d'arrêter de manger les animaux.
Qu'est-ce qui rend le chocolat Milka si tendre ?
C'est un peu indiscret, mais voyez-vous, un homme qui vous couvre de bijoux, vous offre des fleurs, repasse vos robes. C'est naturel de lui donner un bon lait des Alpes, qui fera toute la tendresse d'un bon chocolat. Milka, tendrement chocolat.
Ah ! Mais il m'a mordu ! Mais pourquoi est-ce que tu m'as mordu ? Mais regarde ce que tu as fait ! Oh, mais qu'est-ce qui t'a pris ?
La viande devrait toujours être aussi bonne que ça.
Vivons fort ! Charles !
Dans la publicité, le corps des femmes n'est jamais montré entièrement. On voit seulement des femmes sans tête, avec simplement leurs seins, leurs paires de jambes. Et c'est vrai aussi pour les animaux, on voit des morceaux de leur corps. Partout dans notre monde, sur les anciennes de boucherie, sur les étals, ils sont montrés fragmentés, découpés. Et sans ce processus de fragmentation, il n'y aurait pas de consommation possible.
Je ne sais jamais trop comment parler de ce sujet-là, si ce n'est que de pointer effectivement le fait et les statistiques que la majorité des activités qui impliquent des violences envers les animaux sont menées par des hommes, en grande majorité. Donc que ça soit évidemment les postes de pouvoir dans toutes les entreprises de production animale, de sélection génétique des animaux, de zootechnie. Voilà, il y a une prévalence très forte, écrasante, de la part des hommes dans les métiers qui impliquent la violence envers les animaux.
Le rapport aux animaux, c'est un rapport qui est globalement genré, hein, c'est-à-dire que...
Laurent Beck-Chanclan, professeur de psychologie sociale.
Une démonstration ou une indication selon laquelle des femmes sont plus sensibles que les hommes au sort des animaux. Si on regarde effectivement les études expérimentales ou bien les enquêtes, eh bien on a des données qui montrent que la probabilité qu'une femme, par exemple, frappe un animal, elle est 40 fois inférieure à celle d'un homme, hein, ce qui montre bien une forte asymétrie dans ces relations.
When we think about domestic violence, intimate partner violence, when we think...
Quand on regarde du côté des violences conjugales, lorsqu'un partenaire est violent, c'est toujours parce qu'il veut réaffirmer que c'est lui qui a le contrôle et il fera tout pour le garder. Or, dans les cas de violences psychologiques et d'emprise, souvent les auteurs de violences ont recours à des métaphores animales. Ils vont insulter leurs partenaires, les traiter de sales chiennes, de grosses truies, de grosses vaches. Et dans les cas de la violence physique, l'agresseur peut aussi utiliser des méthodes qu'on associe à la violence envers les animaux, ou bien sous-entendre que la femme sera tuée comme un animal. Je pense que cette violence existe parce que notre culture autorise, parce que notre culture tolère des actes de violence extrême envers les animaux. Ainsi, objectifier un être humain et le rapprocher le plus possible d'un animal sur lequel la violence est autorisée, c'est une façon de disculper l'auteur et de lui permettre de ne pas se sentir coupable.
De nombreux travaux qui montrent que donc, lorsqu'il y a des violences envers les animaux dans le contexte familial, ça peut être une alerte. On sait aussi que les auteurs de violences familiales peuvent utiliser un peu les animaux en otage, c'est-à-dire que finalement, ils menacent de les blesser, de les tuer. Et parfois, c'est un argument qui même va retenir une femme de quitter le domicile, ayant peur que l'animal de compagnie soit finalement la victime d'un homme violent.
When a batterer kills an animal.
Quand un homme tue un animal dans un foyer, la femme est le référent absent de cet acte. Le référent absent, c'est l'expression que j'ai forgée pour dire que le but, en tuant cet animal, est de dire que la prochaine fois, ça sera au tour de la femme d'être tuée.
C'était ça, le but.
le but et le délice. Le délice de ne pas me sentir assignée à résidence dans le genre humain, mais de m'en affranchir pour m'élargir, m'augmenter, dans une sorte de bond vers la nuit. Il y a le froid, il y a la peur aussi, à chaque sortie. La peur, peur du fameux coup de fusil vite parti. Donc en moi, le sentiment confus d'un péril tapis on ne sait où, cervelle hérissée de capteurs non humains, corps aux aguets, je découvrais, étonnée, à quel bord j'appartenais, à celui des proies. Étrangeté amplifiée par le genre qui m'incarnait, comme si depuis toujours, le féminin et l'animal allaient ensemble, passionnément, dans le même qui-vive. Claudie Hunzinger, Les Grands Cerfs, 2017.
Les animaux auraient pu vivre une autre histoire, auraient pu connaître un autre destin. Les animaux auraient pu être autre chose que des festins continus.
Kautar Archie.
Si l'histoire occidentale ne s'était pas orientée vers cette nécessaire distinction hiérarchisante entre l'espèce Homo sapiens qui règne au sommet et les espèces animales qui, elles, au contraire, sont tout en bas, sont du côté des bas-fonds, du côté du bas-monde, où il ne règne pas de loi.
Je vois le véganisme comme le boycott d'une industrie qui non seulement opprime les animaux, mais qui détruit aussi l'environnement, qui abîme nos relations amoureuses, nos liens aux autres. Le véganisme est une très belle manière de s'engager dans le monde, parce qu'avec chaque repas vegan, nous disons que nous voulons un autre futur. Nous déclarons que nous n'avons pas besoin de l'oppression des autres animaux pour survivre. Nous devons arrêter de manger les animaux car nous détruisons notre planète et la compassion. Pour moi, chaque repas vegan est un boycott et une célébration.
Il y a une réelle promesse en fait à cet endroit, c'est-à-dire au lieu de se comporter dans le monde à partir de notre capacité à donner la mort et à dominer autrui, eh ben en fait ce serait à partir de notre capacité à faire proliférer la vie. I'm not no red football. To be kicked around the garden, no, no. I'm a red Christmas tree ball, and I'm fragile. I'm not no animal, though I am to you. I'm not no crocodile, like the one in Dublin Zoo. Who lived in a cage, the length and breadth of his body. Le monde après le spécisme, en finir avec l'oppression des animaux. Une série documentaire de Pauline Chanu, réalisée par Clémence Gross, avec David, Brigitte Gauthière, Kautar Archie, Myriam Bahafou, Axel Pleyous-Bror, Tom Brice-Chevalier, Laurent Beck-Chanclan et Carole Adams. Lecture, Mélissa Barbeau et Chiara Zerlini. Prise de son, Romain Luquin, Simineta Diawara, Manon Moussin, Olivier Arnay et Jean-Guilain Meige. Mixage, Claire Levasseur. Documentation musicale, Antoine Vuillose. Documentation, Anne-Lise Signoret et Hervé Evano. Illustration, Anaïs Isbert. Collaboration, Iris Pessarossi. Merci à Anne-Sophie Reinhardt, Laura Rouault, Victor Durand-Lepeuch, Anne-Claire Gagnon de l'Association contre la maltraitance animale et humaine, Dominique Elisabeth et Jérôme Nangis de la Division nationale de lutte contre la maltraitance animale. Chargée de programme, Marie-Vonna Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'application Radio France. À suivre, épisode 4, Libération animale. La 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 la